Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Jeudi 30 janvier, bonsoir à tous. Levé de rideau sur l'info, c'est le début de la session soirée. Et c'est parti pour 3 heures dans 10 minutes. Le décryptage, Véronique Rigollet, quelle aide aux Palestiniens après l'expulsion de l'UNRWA?
Oui, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui n'a plus que quelques heures désormais pour quitter toutes ses installations à Jérusalem, sommée par Israël, de faire ses valises et de cesser toute opération. L'UNRWA partie, qui comblera le vide dans la fourniture de l'aide indispensable aux 6 millions de réfugiés palestiniens et surtout, qu'adviendra-t-il de Gaza où la situation humanitaire est dramatique? On en parle avec nos invités, deux humanitaires, Roni Broman, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, et Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde.
Tout à l'heure, suivra le débat du jour qui, ce soir, sera au chevet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-elle à bout de souffle? C'est la question que nous poserons. La CEDEAO, depuis hier, amputée de 3 de ses membres, puisque le Mali, le Niger et le Burkina Faso officiellement ont claqué la porte. Ils sont désormais réunis au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que l'AES risque de devenir une concurrente pour la CEDEAO? Comment celle qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence, eh bien, peut-elle se relancer? Réponse dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir. Dossier de la rédaction sera consacré à l'audition ce jeudi au Sénat américain de la très controversée Cash Patel, qui est appelée à être la future chef du FBI. 18h30, temps universel Afrique Soir. 19h10, TU, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera ce soir au Royaume-Uni, où les agriculteurs tirent les leçons du Brexit, alors que demain, on célèbre les 5 ans du Brexit. Et puis le grand reportage dans Mayotte dévastée, la fracture face aux sans-papiers. Voilà pour le programme, mais à 17h02, temps universel, c'est l'heure du journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et la situation en RDC pour débuter ce journal.
Dans une allocution la nuit dernière, Félix Tshisekedi avait dénoncé l'inaction de la communauté internationale. Quelques heures plus tard, le président congolais s'est entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères en visite à Kinshasa. Pour quelques heures, Paris demande aux forces rwandaises de quitter la RDC. Avec le M23, elles ont pris position dans plusieurs quartiers de Goma, la grande ville de l'Est, et avance toujours. Jean-Noël Barrot est désormais arrivé à Kigali pour poursuivre sa mission diplomatique. La Belgique, elle, appelle l'Union européenne à prendre des sanctions contre les autorités rwandaises. À Bruxelles, on retrouve Pierre Benazet. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères se sont exprimés officiellement au Parlement cet après-midi.
Oui, devant la Chambre des représentants ce jeudi, le Premier ministre Alexandre De Croo demande formellement au Rwanda de mettre un terme à son soutien au M23. Il martèle que l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. Il juge inacceptable les violences dans l'Est. Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Quintin, va plus loin. Il révèle avoir demandé aux autres pays de l'Union européenne leur aide en faveur de la RDC face à Kigali. Les débats ont eu lieu lundi et mardi, d'abord avec les autres ministres des Affaires étrangères, ensuite entre les 27 ambassadeurs au COPS, le comité politique et de sécurité de l'UE. D'autres capitales européennes confirment que la Belgique a en quelque sorte demandé à ses partenaires le maximum vis-à-vis du Rwanda. Il faut utiliser tous les leviers pour un impact significatif, estime Bernard Quintin. Il s'agirait de suspendre d'abord le dialogue sécuritaire, puis le versement au Rwanda de 20 millions d'euros pour sa mission militaire de lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, Mozambique, et de suspendre enfin l'accord UE-Rwanda sur les matières premières critiques.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. L'échange otages contre prisonniers au Proche-Orient est en cours après avoir été suspendu par les autorités israéliennes. 110 détenus palestiniens viennent d'arriver à Ramallah dans des bus de la Croix-Rouge. Ce matin, c'est aussi la Croix-Rouge qui avait pris en charge les otages israéliens dans des conditions dénoncées par Israël. Des scènes de cohue à Gaza, des hommes en armes du djihad islamique à Khan Younes entourant une civile israélienne de 29 ans et un homme de 80 ans, germano-israélien, à Jabalia. Même scénario, ce sont les hommes du Hamas qui ont relâché une soldate de 20 ans, Agam Berger. À Jérusalem, son père a suivi sa libération minute par minute. Sami Bourhelifa s'est entretenu avec lui.
Il a fait du retour de sa fille le combat d'une vie. Le 7 octobre 2023, Shlomi Berger découvre sur les réseaux sociaux la vidéo d'Agam, sa fille soldate, capturée dans sa base militaire de Nahal Oz, à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza. Sa mission à l'armée, guetteuse, chargée de surveiller la frontière entre Israël et l'enclave palestinienne. Le jour de l'attaque du Hamas, elle est emmenée à Gaza avec notamment 4 autres soldates. Elles ont été libérées la semaine dernière et c'est désormais elle qui rentre à la maison, se réjouit son père Shlomi Berger. Bien sûr que je suis heureux, je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Agam a passé 482 jours aux mains du Hamas à Gaza, plus de 15 mois de captivité. Shlomi Berger se confiait déjà auprès de RFI en octobre dernier. Agam a fêté son 20e anniversaire à Gaza. Si je devais m'arrêter et réfléchir à tout ce qu'elle a traversé au jour le jour, je m'effondrerais. En tout, ce jeudi, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés. Samedi, 3 autres Israéliens seront relâchés par le Hamas. Sami Brifet, Jérusalem, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump confirme qu'il n'y a pas de survivants après la collision d'un avion d'American Airlines et d'un hélicoptère militaire à Washington. 28 corps ont déjà été repêchés du fleuve Potomac. Au total, 67 personnes se trouvaient dans les appareils au moment du choc. Pour l'instant, les causes de l'accident ne sont pas connues. Écoutez un extrait de la conférence de presse de Sean Duffy, le secrétaire d'État américain aux transports.
This was a clear night. La nuit dernière, le ciel était dégagé. L'hélicoptère suivait une trajectoire normale. Si vous vivez dans la région de Washington, vous verrez des hélicoptères monter et descendre le long du fleuve. Cette configuration de vol est fréquente lorsque l'on vit à Washington. C'était également le cas la nuit dernière. L'avion d'American Airlines suivait un schéma de vol normal lui aussi à son approche de l'aéroport. Il n'y a donc rien d'inhabituel à ce qu'un avion militaire survole le fleuve et qu'un avion atterrisse au même moment. Ce que l'on attend, c'est de la sécurité. Tous ceux qui volent dans le ciel américain s'attendent à ce que nous volions en toute sécurité. Ce n'est pas ce qui s'est passé la nuit dernière. Et je sais que le président Trump, son administration, le régulateur de l'aviation, le département des transports, nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas de réponse pour les familles et pour les passagers en général.
Sur le dossier de l'immigration, Donald Trump est toujours à l'offensive. Le président américain veut envoyer des migrants sans papier à Guantanamo. 30 000 personnes pourraient être transférées sur la base navale américaine. Des criminels en situation irrégulière, selon le président américain. La prison de Guantanamo a été créée par George Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Les conditions de détention et le recours à la torture sont régulièrement dénoncées par les ONG depuis. Qui succédera à Thomas Barr à la tête du comité international olympique au printemps prochain? La course à sa succession est lancée. L'élection de son remplaçant aura lieu le 20 mars prochain. Aujourd'hui, à Lausanne, les 7 prétendants ont passé leur grand oral devant les membres du CIO. Revue des candidats avec Christophe Diremzian.
Jamais la perspective de piloter le CIO n'avait suscité autant de convoitises. 7 prétendants, des propositions communes sur les enjeux climatiques, la réforme de la gouvernance ou l'usage équitable de l'intelligence artificielle dans la performance, mais aussi des idées qui peuvent faire tiquer. Le candidat le plus influent reste Sébastien Coe, artisan de la réussite des Jeux de Londres, président de la riche Fédération internationale d'athlétisme, mais adepte d'un sport business critiqué. Il ne s'est pas fait que des amis dans la famille olympique en décidant seul de verser des primes aux médaillés d'or des JO de Paris. Ces Jeux populaire, David Lapartien espère en tirer profit malgré son appartenance récente au CIO. Dirigeant multicarte ambitieux, le patron du Comité Olympique Français et de l'Union Cycliste Internationale a su tisser un réseau de relations capable d'en faire un sérieux outsider. Mais si la surprise venait finalement de Kirsty Coventry, double championne olympique de natation, la Zimbabwéenne, qui aurait la préférence de Thomas Barr, a rapidement gravi les échelons depuis son élection en 2013. Elle est aujourd'hui membre de la puissante commission exécutive, plus jeune des candidats. 41 ans, première femme, première africaine à accéder au poste suprême, la perspective pourrait séduire une institution soucieuse d'évoluer vers encore plus d'inclusion et d'universalité.
Christophe Diremzian du service des sports d'RFI. Et puis un mot de football pour finir en Ligue des Champions. Les 4 équipes françaises se sont toutes qualifiées hier soir pour la prochaine étape. Lille est la seule à s'être directement hissée en 8e de finale. Les 3 autres passeront par les barrages. Le PSG a largement dominé Stuttgart. Score final 4-1 grâce au triplé d'Ousmane Dembélé. Monaco et Brest ont été battus en revanche. Les 2 équipes seront opposées soit au PSG, soit au Benfica Lisbonne pour tenter de se qualifier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le décryptage de Véronique Rigolet.